VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Lydia Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Politique au Burundi, les enquêteurs de l'ONU ont exhorté ce lundi la Cour pénale internationale, la CPI, à enquêter de toute urgence sur les crimes contre l'humanité et autres atrocités commis par les autorités burundaises. Le Burundi ayant notifié sa décision de se retirer de la CPI le 27 octobre 2016 et ce retrait étant effectif un an après, la CPI a jusqu'au 27 octobre pour ouvrir une enquête de son propre chef. Passé cette date, seul le Conseil de sécurité de l'ONU pourra faire appel à l'institution internationale. Le Burundi traverse une crise violente depuis la décision en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat controversé obtenu en juillet de la même année. Au Gabon, le principal opposant gabonais Jean Ping et plusieurs leaders de l'opposition ont été interdits de sortir du territoire en réponse à ce que les autorités qualifient d'appel aux troubles à l'ordre public. Cette mesure est consécutive aux propos séditieux de Jean Ping tenus le 18 août 2017 quand il appelait aux troubles à l'ordre public, à la rébellion et à l'insurrection, a déclaré le porte-parole du ministère gabonais de l'Intérieur. Ce dernier a fait savoir qu'il s'agit d'une mesure administrative provisoire concernant les responsables des partis politiques et personnalités au sein de la coalition pour la Nouvelle République, CNR, soutenant Jean Ping. Le CNR de Jean Ping a annoncé la tenue ce lundi d'un rassemblement national dans un collège de la capitale Libreville. Élection au Kenya, la décision de la Cour suprême du Kenya d'annuler la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta pour irrégularité honore l'Afrique. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le chef de l'État guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. C'est un comportement qui prouve que désormais la démocratie s'installe sur le continent, a souligné le président Condé dans un communiqué. L'Union africaine apprécie l'esprit de maturité et de responsabilité de tous les acteurs du processus qui ont préféré les voies légales à la violence, a-t-il ajouté. Au Kenya même, le chef de file de l'opposition Raila Odinga a appelé encore une fois au départ des dirigeants de la commission électorale qu'il qualifie de voleurs. M. Odinga a par ailleurs affirmé qu'il ne partagerait pas le pouvoir avec le camp du président sortant Uhuru Kenyatta. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Deux jours après l'annonce historique par la Cour suprême du Kenya de l'invalidation des résultats annoncés le 8 août dernier par la commission électorale, Raila Odinga a déclaré que son parti n'accepterait pas de scrutin avec les dirigeants actuels de l'institution. Ces voleurs doivent s'en aller, nous ne leur permettrons pas de conduire les nouvelles élections qui doivent être organisées avant le 31 octobre, a dit M. Odinga à ses partisans à Nairobi. Le jugement complet de la Cour doit être publié d'ici au 22 septembre, mais déjà les deux principaux candidats, Kenyatta et Odinga, cherchent à galvaniser leur base. Si l'opposition a félicité le courage des juges de la Cour suprême, le président les a attaqués ouvertement en rappelant que personne ne les a élus. Les juges ont répondu hier qualifiant les remarques de Uhuru Kenyatta d'agression contre le pouvoir judiciaire. Le leader de l'opposition Raila Odinga et son rival, le président sortant, ont déjà affiché leur opposition à un éventuel partage du pouvoir.
En Angola, la CNE, la Commission nationale électorale, doit proclamer mercredi les résultats définitifs des élections générales du 23 août. Quatre partis d'opposition angolais ont exigé dimanche un recomptage des voix exprimées, jugeant irréguliers les résultats qui ont accordé la victoire au parti au pouvoir depuis 42 ans. Le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, a été crédité par la CNE de 61,1% des suffrages et d'une majorité absolue de 150 des 220 sièges du Parlement, selon un comptage provisoire portant sur 97% des bureaux de vote, publié deux jours après le scrutin.
La Voix d'Amérique en direct de Washington.
Au Tchad, les éleveurs de bétail pratiquaient depuis des années le nomadisme ou la transhumance. Ils descendaient du nord vers le sud pendant la saison sèche pour ensuite remonter vers leur région de départ de juin à novembre. Mais ces éleveurs se sédentarisent. C'est ainsi qu'à N'Djamena, les nomades campent tout autour de la ville. Reportage de notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
Ces éleveurs érigent un carré parmi les 14 que constitue le quartier Toukra, circonscription de la commune du 9e arrondissement municipal situé à la sortie sud de la capitale. Ils se sont installés sur ce site depuis plus de 10 ans. Et voilà, ils sont rattrapés par la pression démographique. Ces éleveurs nomades ont une école dénommée Nouvelle Race pour l'éducation de leur progéniture. Malheureusement, les filles sont données en mariage très tôt et les garçons préfèrent plutôt aller derrière le bétail que d'aller en classe. Mariam Hassan et Adam Mahamat respectivement, en classe de cours moyen, première année du primaire et quatrième au collège d'enseignement général, donnent des conseils à leurs camarades.
Je vais dire que l'école est bonne. Si l'école me voit là, je parle comme ça. Si je parle le français, ils vont me dire que je l'ai insulté et je n'insulte pas.
Je veux leur conseiller pour qu'ils fréquentent et comprennent les langues françaises. Parce que nous les nomades, on n'a pas les ministres, ni gouverneurs, ni sous-préfets, parce qu'on ne fréquente pas.
À chaque saison de pluie, ces nomades renvoient toute leur fortune et bétail vers le centre du pays à cause des intempéries, comme en témoigne Blama Hassan Azem Abdoulaye.
À de telles périodes, on envoie nos bétails dans les régions de Hadjer Lamis et Kanem pour les paître. Surtout les chameaux n'aiment pas de l'eau sale et la boue. D'ailleurs, ici, tous les espaces sont cultivés, donc nous sommes obligés de les déplacer à cause des pâturages. On garde quelques têtes de moutons et chèvres ici pour notre survie.
Maïmouna Abou Samad, épouse de Boulama Hassan Hazem Abdoulaye, elle évoque les difficultés que cette frange de la population rencontre pendant cette période de soudure pour se nourrir.
En cette saison de pluie, si tu tombes malade, il faut avoir au moins 5 000 francs pour aller à l'hôpital. Mais avec cette situation de crise sociale, on va trouver l'argent où? Nos bœufs sont tous en pâturage. Même pour se nourrir, je suis obligée de prendre du lait des chameaux avec les autres pour le faire cailler et aller revendre. Et c'est avec le bénéfice que j'achète de quoi manger à mes enfants.
Justement, Mariam, une élève âgée de 10 ans, profite de ses vacances pour vendre ses produits au bord de la grande voie à l'entrée sud de la ville de N'Djamena. Elle exerce cette activité avec tout le risque, mais elle parvient quand même à épauler ses parents.
C'est le lait du bien, c'est pas le lait du chameau. Si on a gagné là, on trouve 2000.
2000 par jour?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites avec l'argent?
On paye les habits, on paye les nourritures. Ce que les chameaux sont malades là, on donne. Les gens, ils piquent là, comme les docteurs, ils piquent les chameaux.
André Kodmadi Djamena, VOA Afrique.
Actualité hors d'Afrique, la communauté internationale a unanimement dénoncé le dernier test nucléaire de la Corée du Nord. Et Washington a cherché à rassurer ses alliés dimanche en avertissant Pyongyang d'une réponse militaire massive en cas de menace directe contre les États-Unis ou leurs alliés. Pascal Gabriela Serra nous en dit plus.
Sur le terrain, la réaction de la Corée du Sud a pris hier soir la forme de tirs de missiles balistiques dans le cadre de manœuvres faisant suite au sixième essai nucléaire annoncé par Pyongyang et confirmé par la communauté internationale. Selon l'agence officielle sud-coréenne Yonhap, cet exercice à munitions réelles a simulé une attaque sur le polygone de tir nucléaire nord-coréen et touché des cibles situées à une distance équivalente. Au plan diplomatique, les réactions ont été unanimes. Moscou, Paris, Berlin, Rome, Washington ont qualifié l'essai nucléaire nord-coréen de provocation et de violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Néanmoins, la Russie appelle à une réponse n'impliquant pas d'action militaire. L'Union européenne pourrait envisager des sanctions additionnelles. Quant au gouvernement américain, il maintient son droit à l'option militaire, même si le général Jim Mattis, secrétaire à la défense de Donald Trump, a précisé que le but n'est pas l'anéantissement de la Corée du Nord. Il s'est ainsi prononcé au sortir d'une rencontre de l'équipe de sécurité du président à la Maison-Blanche. Washington continue de miser sur des actions plus fermes de la Chine, principal allié de Kim Jong-un, pour mettre un terme aux provocations du régime nord-coréen.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence aujourd'hui pour discuter de la réponse à apporter au nouveau test nucléaire de la Corée du Nord. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, le Japon et la Corée du Sud ont demandé à ce que la réunion se tienne à 10h heure locale, 14h temps universel, a annoncé l'ambassade américaine à l'ONU. Et pour terminer, États-Unis toujours. 9 jours après les inondations dévastatrices provoquées par l'ouragan Harvey au Texas, le maire de Houston, Sylvester Turner, déclare que sa ville, la plus touchée par Harvey, est prête à reprendre son rôle de leader dans le secteur des affaires. Mais pour beaucoup, la quatrième plus grande ville des États-Unis après New York Los Angeles et Chicago est loin de pouvoir répondre à pareille demande. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.